Puis actuellement, parce que c'est pour moi mon deuxième métier, avant j'ai été enseignante, actuellement je suis éditrice et directrice de publication dans une petite maison d'édition qui s'appelle Première Partie, qui est une maison d'édition qui a vocation à produire des objets culturels, missionnaires, et plutôt tournés vers le grand public. Et entre autres, je m'occupe du magazine Jésus, peut-être que vous l'avez vu. C'est un magazine où le rédacteur en chef est souvent quelqu'un très connu, et le dernier rédacteur en chef, c'était le joueur de foot Olivier Giroud. Une grande campagne d'affichage à la sortie du magazine. Je vois des visages qui disent oui, c'est rassurant. Vous n'avez pas payé pour rien, la campagne d'affichage. Voilà. Alors, en parallèle, en fait, je vais travailler dans un autre de mes activités sur les questions de doctrine sociale de l'Église. Et depuis quelques années, j'ai développé deux formations. Une première sur l'éthique de l'action politique. Et l'année dernière, j'avais avec tout un groupe monté une formation pour préparer les candidats aux élections municipales. Et par le biais de ces formations, j'accompagne des élus, essentiellement des élus locaux, soit candidats, soit élus, dans leur pratique de la politique. Donc, essentiellement sur les questions d'éthique, mais aussi sur les questions de langage, comment, quel mot j'utilise, qu'est-ce que ce mot veut dire, quelle est l'histoire du mot, comment suivre, tout ce qui va pas. Tout ce qui, dans l'inconscient, est porté par le mot. Souvent, il y a des très beaux quiproquos qui sont assez drôles. Donc voilà. Et moi, je suis chroniqueuse sur la persévérance. Je débat souvent sur la bonne. Je me parle sur Cathéo. Et ce qui m'intéresse et ce qui me motive, vraiment ce qui motive ma réflexion, c'est de la question de comment l'Église peut-elle intervenir dans le monde et quel message elle a à donner au monde, et essentiellement sur la question sociale. Donc la politique est vraiment le fil conducteur de tout ça. Alors le titre que j'avais donné à la conférence quand on m'a demandé un titre, c'était « Aimer les politiques ». Mais en fait, vous allez voir, ça va être un amour très charnel. Je vais vous demander, je vais vous inviter à aimer la politique. Toute mon intervention est une invitation à s'engager en politique. Ce n'est pas uniquement l'aimer comme on aime une œuvre d'art, mais c'est se l'approprier pour que vous rentriez vous aussi dans la. Alors, la politique, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais véritablement relève, quand on regarde le magistère de l'Église, de la responsabilité des laïcs. C'est très important pour moi, vraiment dans la réflexion que je mène, d'insister là-dessus. Le clerc n'a pas un engagement politique, il n'est pas fait pour un engagement politique. Le clerc doit nous montrer le ciel, et nous, laïcs, nous avons à construire le ciel déjà sur terre. Et donc la politique fait partie de cette construction du royaume de Dieu sur terre que je vais développer dans la suite. Et la politique s'intègre parfaitement dans ce que la mission de la doctrine sociale de l'Église confie aux laïcs, qui est une mission d'organiser, gérer, transformer la société selon des critères évangéliques. Et vous voyez bien que la politique a sa part pleine et entière dans cette mission. Je trouve que la politique est un sujet extrêmement intéressant à traiter et à vivre, parce qu'elle permet de réconcilier deux conceptions du rôle de l'Église dans le monde. Pour certains, l'Église va avoir un rôle de témoignage, elle va devoir rendre témoignage, et parce que l'Église, elle est un signe dressé dans le monde, parmi les nations, et dans ce monde, elle doit témoigner de ce qui dépasse ce monde. Souvent, il y a cette idée que l'Église est faite pour rendre témoignage. Et puis, vous avez d'autres lectures qui vont vous dire, d'autres lectures qui vont vous permettre. Le rôle de l'Église, c'est de s'engager dans la civilisation. Que notre religion est une religion des pauvres, au sens de l'intégralité et de l'humanité, et que dans cette marée humaine, elle doit rappeler, par son action, le caractère essentiel de l'Évangile. Et ce que j'aime beaucoup dans la politique, c'est qu'elle permet d'assembler ces deux conceptions, parce qu'elle permet d'être à la fois une parole et une action. La politique, c'est l'association d'une parole et d'une action, qui aujourd'hui sont complètement distendues, au point même qu'il y a une rupture entre la parole et l'action, la parole politique et l'action. Et c'est là où je pense que les catholiques ont un véritable jeu de l'autre. Je vais juste rappeler pour qu'on soit un peu clair sur les sujets. Les choses, ça va être mon passé universitaire qui m'avait ça, il faut donner des définitions. Donc qu'est-ce que la politique? Et je prends une définition qui est assez classique dans ce qu'elle dit, qui vient du cardinal Daniel. Le fondement de la politique, c'est le souci de créer un ordre où l'épanouissement de la personne soit possible, où l'homme puisse réaliser pleinement sa destinée. Et cette définition, vous allez voir, en fait, je vais la décliner pendant toute mon intervention, elle donne une ambition à la politique qui est immense. C'est que le but de la politique, c'est de permettre à chacun des membres de notre humanité de réaliser sa destinée. Alors, quand on est croyant, la destinée, ce n'est pas uniquement d'avoir une vie pleine, entière et satisfaisante, mais c'est d'avoir une vie pleine, entière, satisfaisante, donnée aux autres, en vue du royaume de Dieu. Juste avant de commencer vraiment le cœur de mon propos, je voulais vous donner quelques pistes de textes, essentiellement des textes du magistère, sur lesquels j'appuie ma réflexion et dans lesquels vous pouvez tourner facilement. Je vais vous citer un message que le pape François avait adressé en décembre 2017 aux participants d'une rencontre qui avait eu lieu en Amérique latine et qui rassemblait, c'était une rencontre un peu inédite et qui d'ailleurs n'a pas vu trace de ce type de rencontre ailleurs, qui rassemblait évêques et engagés, catholiques engagés en politique. Et donc à cette occasion, le pape François avait adressé un discours assez intéressant qui pose pas mal de choses. Ensuite, la congrégation pour la doctrine de la foi, du temps où c'était encore Ratzinger, Ratzinger qui était à la tête, en 2002, a publié une note doctrinale concernant certaines questions sur l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique. C'est une espèce de mode d'emploi du catholique en politique, et surtout sur la question éthique. La grande encyclique qui parle de la politique, mais pas que, mais qui parle de l'engagement politique dans le monde et donc de la politique, c'est Gaudium et Spes, dans la foulée du Concile Vatican II. Ensuite, j'ai un dernier texte qui me semble intéressant pour comprendre le monde dans lequel on est, et un espèce de diagnostic. L'épiscopat français, la Conférence évêque de France en 2016, à la veille des élections présidentielles, avait sorti un texte qui a un très beau mot, enfin qui a un très beau titre. Je ne suis pas sûre qu'on ait réussi à y répondre, qui s'appelle le titre, c'est « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ». Donc il y a véritablement, rien qu'à travers le titre que je vous donne, l'Église a toujours eu un regard extrêmement considéré pour la politique comme quelque chose d'extrêmement noble et d'extrêmement important. Et puis deux textes, qui ne sont pas les textes qui appartiennent au magistère. Un, qui est un texte du cardinal Benelou, qui est fantastique parce qu'il date de 1963 et je trouve qu'il est profondément prophétique, qui s'appelle, écoutez bien, je ne peux rien dessus, qui s'appelle Oraison, problème politique. Alors je ne sais pas. Ceux qui parlent, si vous avez déjà pensé que l'oraison avait une dimension politique, Danilo là-dessus est absolument fondamental. C'est extraordinaire. Et j'ai aussi un dernier texte qui, alors là, n'est pas du tout dans le magistère, mais qui m'aide à construire ma pensée, qui est la note sur la suppression générale des partis politiques de la philosophe Simone Veil, qui date de 43. Ces textes sont absolument incroyables, on pourrait imaginer qu'ils ont été écrits aujourd'hui. La note sur la suppression des partis politiques de Simone Veil, donc la philosophe, elle a un W, comme ça, c'est le moyen même technique. La philosophe, elle est enracinée au ciel et sur la terre, donc elle a deux pieds, les deux pieds du W. Alors que la femme politique, c'est un W. Donc c'est 43. Tout d'abord, je voudrais qu'on fasse rapidement le diagnostic de la situation dans laquelle nous sommes. Ce que je vais dire concerne à la fois la France, l'Europe, mais la plupart des pays occidentaux, et voire même plus, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je suis très frappée par le fait qu'aujourd'hui, dans le monde, aujourd'hui, si je prends mon téléphone et que je regarde, parce que je n'ai pas besoin de vous fouiller, il y a au moins un mouvement populaire par jour de manifestation dans le monde. L'Amérique latine est touchée. Je ne parle pas des pays qu'on a vus, je parle des pays qui ont un système démocratique, il y a déjà une certaine expérience, qui sont plutôt développés. Donc l'Amérique latine, regardez le Liban, regardez, je ne parle pas du Moyen-Orient, on dirait que c'est une catastrophe politique en ce moment, mais des pays qui ont une culture, on va dire, du politique assez enracinée, l'Amérique latine est bien d'immigration, et bien dans tous ces pays, il y a régulièrement des manifestations, même parfois très violentes, dans les manifestations populaires. Et donc, le constat, et les évêques de France, la conférence des évêques de France le partage, c'est qu'aujourd'hui, les instances politiques sont véritablement tombées dans un discrédit total, un discrédit populaire qui touche l'ensemble des couches de la société, et le taux d'indice de confiance envers les partis politiques est au plus faible, il est de moins de 15%. Donc c'est-à-dire que dans la population en âge de voter, le population électeur, moins de 15% des Français font confiance aux partis politiques. C'est inquiétant. Et ça s'explique quand on voit l'indignité totale du débat politique, il n'y a pas mort d'homme, on voit tout de suite, ça saute aux yeux. Aujourd'hui, on a un débat politique qui est vraiment un débat politique de la petite phrase, les réseaux sociaux ont eux aussi contribué à ça. Moi, je ne vais pas dans la tête uniquement sur les réseaux sociaux, je pense que le politique est lui aussi responsable de ça. Et en fait, on a cet appareil même un personnel politique qui a, je parle en général, on a toujours des exceptions, je connais des gens qui sont des gens qui sont extraordinaires, mais on a une pratique très électoraliste, et donc on pratique la démagogie pour se faire élire. En plus, avec le rétrécissement du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans, le président de la République, une fois élu, on dit qu'il a ses 100 jours. Voilà, son âge d'or, c'est 100 jours. Il a 100 jours pour mettre tout en place. Après, il rentre dans une espèce de routine et il rentre en campagne électorale quasiment 2 ans avant. Donc, en gros, il a moins de la moitié de son mandat pour gouverner. Si on peut, s'il a des gilets jaunes, il gouverne. Et donc, le monde politique est considéré aujourd'hui par une grande partie des Français comme une forme une sorte de corporation de professionnels qui serait au service de leurs propres intérêts ou même au service d'un grand système, qui est un système ultra-libéral. Et il y a véritablement une crise de confiance profonde envers ceux qui sont pourtant chargés du bien commun. Et dans ce milieu-là, nous, catholiques, nous sommes extrêmement distants. Il y a dans le monde des élus quelques catholiques, je ne dis pas qu'ils peuvent se compter sur les doigts de la main, mais pas beaucoup, ceux qui affirment, qui reconnaissent qu'ils sont catholiques, sont encore moins nombreux. Vous en connaissez, à gauche comme à droite. Alors hier, j'ai pu donner deux noms, mais forcément, le nom qui manquait hier, je n'ai pas été recherché. Donc, à droite, on est souvent, c'est la figure de François-Xavier Bellamy qui intègre ça très bien. Il est élu en tant, pas en tant que catholique, mais aussi en tant que catholique. Et puis, dans le cadre de la France Insoumise, bah, c'est plus son prénom, mais c'est le député Capelins. Vous voyez, la France Insoumise, il est tout même, il est peu connu, moins connu que Ruffin, son collègue. Non, le fin, oui, il est catholique, mais Capelins, c'est catholique.
Le poisson,
quoi. Oui, mais Jean-Claude Poisson n'a plus le mandat électoral, sauf les comités d'agglomération. Donc, Jean-Claude Poisson n'est plus un représentant de la nation. Il n'est plus du tout élu. Mais en tout cas, lui, on est d'accord, il le dit, et il a clairement le statut, en fait, il n'a pas attendu. Et donc, aujourd'hui, dans cette crise de confiance, il n'y a pas un courant fort, soit unique, soit diffus, dans de différentes structures, où les catholiques sont engagés et cherchent à ouvrir la voie à l'évangile. Et pourtant, en tant que chrétiens, nous avons à nous préoccuper du monde. Et Gaudium et Spes, un encyclique qui rappelle bien, parce qu'il dit « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres, surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples de Christ. » Donc les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps sont aussi nos joies, nos espoirs, nos tristesses et nos angoisses. Et cette phrase me semble extrêmement forte. Il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur, donc le cœur des disciples de Christ. Leur communauté, en effet, s'édifie avec des hommes rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint, dans leur marche vers le royaume du Père, et porteurs d'un message de salut qu'il faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain, de son histoire. Et donc, il y a deux choses qui me sont très importantes et qui sont glissées dans cette citation de l'Ordre de l'Espèce, c'est que nous ne pouvons pas être indifférents à la réalité du monde pour deux raisons. La première, c'est parce que nous partageons la même condition humaine que nos concitoyens. Et la seconde, c'est que nous partageons aussi ce statut de citoyen. Et le catholique, il est citoyen à part entière. D'ailleurs, on le voit dans les sondages qui analysent les élections et les élections, les catholiques sont très présents pour le vote. En revanche, ils sont peu présents sur les listes. Mais les catholiques sont quand même plutôt un électorat qui vote. C'est un électorat qui est intéressant, même s'il est en déclin, pour les candidats. Et le problème, c'est qu'en face de ça, les catholiques partagent cette condition humaine, partagent cet espoir et la fragilité de l'humain, mais dans le lieu de la politique, ils sont complètement absent, quasiment absent. Et il y a véritablement un angle mort dans l'engagement catholique. Alors moi, ça me pose question parce que ça veut quand même dire que nous sommes extrêmement engagés dans le monde, par les œuvres de charité. Mais quand il s'agit d'entrer en politique, il y a quasiment plus. Je pense que si je faisais un sondage parmi vous, vous êtes tous engagés dans au moins une ou deux associations caritatives. Et l'Évangile de Dieu, là, j'ai désimpressionné qu'il m'a visité, j'ai des formes de large. Vous remplissez au moins deux ou trois de ces cases-là dans votre engagement associatif, bénévole, par vos pratiques de vie paroissiale. Mais quand on rentre en politique, c'est fini, en dehors, nous ne sommes plus présents. C'est bien embêtant, parce qu'en fait, c'est une vocation du chrétien d'entrer en politique. Et c'est une vocation qui nous est confiée dès notre baptême. Alors vous savez, quand on est baptisé, on est proclamé participant à la condition du Christ, à la condition christique, et nous sommes donc proclamés prêtres, prophètes et rois. Finalement, le politique, il est particulièrement un prêtre, un prophète et un roi. Pourquoi le prêtre a une dimension politique? Parce que le politique, comme le prêtre, il a le souci du monde. Le prêtre, il a quand même la statut de prêtre qui nous est confirmé dans le monde baptême, c'est de prier pour le monde, de s'en soucier, et ça mène au don de soi. La politique est un don de soi, parce qu'elle nécessite au départ le souci de l'autre. Celui qui entre en politique et qui n'a pas le souci de l'autre ne fera jamais un bon politicien. L'autre jour, j'étais une réunion politique, des gens qui commencent à réfléchir aux élections présidentielles, et il y avait des noms qui avaient appris sur la table, et il y avait un ancien ministre qui était là, qui avait une bonne pratique de politique. Il a cette patte de la politique, j'aime beaucoup travailler avec lui parce qu'il a ses réflexes très incarnés de politique. Et il dit à lui, vous vous trompez complètement, c'est un très mauvais candidat, il n'aime pas les gens. Donc même en politique, politicienne, avec cette idée d'une course aux élections, nous sommes prêts par le baptême, nous aimons les gens. Donc nous avons cette vocation à entrer en politique. Nous sommes aussi prophète. C'est-à-dire que par nos baptêmes, nous sommes envoyés pour annoncer Christ, pour rappeler la dignité de l'homme, pour rendre témoignage de ce qu'il est. Et bien, le politique, dans son discours, il doit en permanence rappeler ce que c'est pour ça. Et la politique est le lieu où nous pouvons aussi le faire. Nous pouvons le faire à travers des manifestes, des pétitions, tout ce que vous voulez, mais le politique, quand il arrive en prison, dans le discours qu'il va porter, dans la manière dont il va parler et proposer une loi, il va dire quelque chose de la conception qu'il a de l'homme. Et donc, si c'est le catholique qui le fait, il va rappeler quelque chose de fondamental, qui est la dignité intrinsèque de l'être humain. Et puis enfin, nous sommes rois. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes appelés à être rois parce que nous sommes appelés à construire le royaume de Dieu sur terre par les actes de charité. Et rappelez-vous, la politique est la forme ultime de charité. Personne ne sait qui a dit ça, c'est un dit Saint-Augustin, d'autres sont pas, c'est pas sérieux, c'est un pape, je sais plus lequel. Mais voilà, c'est un pape, je vais le chercher le jour. Et voilà, c'est la forme ultime de chacun. Et dans Christi Fidelis Laïci de Jean-Paul II, hein, c'est encyclique, Jean-Paul II, et intéressant, c'est Jean-Paul II qui parle dans cette encyclique. C'est l'encyclique qui parle de la fonction du rôle des laïcs. Et Jean-Paul II, il va mettre le doigt sur la politique. C'est un sujet qui, pour lui, il n'en fait pas un angle mort. Il dit bien, les fidèles laïcs ne peuvent absolument pas renoncer à la participation à la politique. Et regardez comment il a défini dans son sens le plus large, à savoir l'action multiforme, économique, sociale, législative, administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir organiquement par les institutions le bien commun. Et là, dans cette citation de Saint Jean-Paul II, il y a quelque chose qui me semble un petit peu forte, c'est qu'il a cette conception que je partage aussi du fait que tout est politique. Quand vous êtes dans une. On en parle à table, le loin qui dit tout à l'heure, vous montez en patronage dans une paroisse, c'est politique. C'est infiniment politique. Parce que vous contribuez par le patronage à construire une société. Vous êtes là pour. Vous êtes dans une mission d'éducation dans un patronage. Vous transmettez la forme et vous éduquez. C'est infiniment politique. Et Jean-Paul II rappelle bien que tout ça, c'est mais il pointe du doigt qu'il y a l'action législative, celle qui fait les lois. Et après, il dit quelque chose qui nous oblige à nuancer notre engagement de charité et à bien réfléchir à ce que c'est que la politique. C'est quand il dit que ça a le but de promouvoir organiquement et par les institutions le bien commun. Aujourd'hui, nous sommes tous engagés dans des actions de charité. Ce sont des actions qui ont pour mission, comme le disent, de penser et de prier. Elles sont là pour préparer les mots de notre société. Mais elles ne peuvent pas se vivre. En fait, elles sont là, c'est la fin de l'histoire que nous préparons. Nous souffrons avec celui qui souffre, nous soignons celui qui est malade. Mais si je remonte le fil de l'histoire, je peux par une action politique influencer les institutions et donc faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui souffrent, moins de gens malades. Parce que je remonte sur la structure sociale. Et c'est ça qui est très fort dans l'action politique, c'est que l'action politique, elle va pouvoir agir sur la structure de bien commun, justement en vue du bien commun. Par l'action politique, je vais construire, mettre en place des structures qui vont permettre d'en bien commun. Et c'est très important parce que ces structures de bien commun, elles sont différentes, mais vous allez voir qu'elles relèvent toutes du politique. J'ai commencé à en lister. Non, je me suis arrêtée parce qu'il m'en fallait la journée. L'ordre public, éminemment public. C'est la sécurité, entre autres. La paix, éminemment politique. Le respect de la liberté, éminemment politique. Je lisais hier qu'il y a un projet de loi qui est discuté aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur la question de l'avortement. Il y a dans le projet de loi, c'est une proposition de loi, par contre, c'est portée par les députés, il y a l'idée de supprimer l'objection de conscience. J'imagine, en fait, elle a. Si le législateur a un pouvoir immense sur nos propres consciences, rien que par l'objection de conscience, donc la liberté, l'égalité, le respect de la vie humaine et de l'environnement, évidemment, la justice, la solidarité. En fait, à chaque fois, il y a une dimension politique sur laquelle le législateur, l'homme politique, peut intervenir. Je vous explique après, pas n'importe comment, mais enfin. Et donc, on est bien dans l'engagement politique. Si les catholiques s'engagent en politique, ils auraient là la chance d'avoir une action profonde dans les profondeurs de la société, et une action qui anime chrétiennement l'ordre de l'homme. Non pas pour résoudre le problème, mais pour empêcher le problème d'avenir. Nous sommes pécheurs, ce ne sera jamais parfait. Hein. Je n'idéalise pas la politique. Et donc, le catholique, pour reprendre la définition du bien commun, quand il s'engage en politique, il va pouvoir créer l'ensemble de la civilisation d'une espèce des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun des membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Là, vous voyez, je fais écho complètement à la définition que j'avais donnée de la politique par Daniel. Et puis, donc c'est toucher, c'est agir sur les structures sociales. Et je pense que ça va encore plus loin parce que dans l'engagement politique des catholiques, les catholiques ont une fonction que personne d'autre ne peut remplacer et que personne d'autre ne fera à notre place, qui est d'être au service de l'homme, pas uniquement à travers sa dignité, tout ça, tout ce qu'on connaît principalement, que n'importe quel juste pourrait porter, mais c'est aussi rappeler sa dimension spirituelle. Notre engagement, il est vital, parce que notre engagement sera le seul qui va pouvoir œuvrer pour que soit protégée la dimension spirituelle de la personne humaine. Et c'est là où Daniel est très fort avec son titre, l'oraison, mais pas dire que le problème politique, c'est une même expression. C'est qu'il dit qu'il est bien clair que c'est l'ensemble de la société que les chrétiens doivent s'efforcer de transformer pour qu'une vie chrétienne soit accessible à l'ensemble des hommes. Et en fait, notre relation à Dieu, elle est la caractéristique essentielle et vitale de notre être. Et quand Daniel, c'est 65, écrit son livre, il a déjà conscience que dans une situation comme la nôtre, où la technique prend le pas sur l'incarnation, sur la dimension spirituelle de l'homme, cette question de l'horizon va disparaître. Alors, Daniel, il parle de l'horizon en son général, la dimension transcendantale de l'homme, puisqu'il la raccroche aussi à son histoire antique. Et il dit la cité antique, qu'elle soit grecque, romaine, ou même celle de la Mésopotamie ou mésopotamienne, elle est fondée avec au cœur la dimension spirituelle de l'homme. Le temple est au cœur de la cité. Donc il va juste dire qu'en fait, il n'y a pas de civilisation sans cette dimension spirituelle. Mais aujourd'hui, nous avons une civilisation qui a tué cette dimension, qui l'a remplacée par la technique. Je trouve que c'est prophétique, en 65, de dire que la technique va tuer la dimension transcendantale de l'homme. Aujourd'hui, on le voit, avec par exemple les bioéthiques, on l'a vu pendant le confinement, l'usage de la technique, nous avons fait l'écran a remplacé l'internet, la relation internet. Donc ça peut durer en plus. C'est prophétique. Mais il y a quelque chose, à mon avis, qui est fondamental, qui est une véritable invitation à l'engagement des catholiques en politique. Parce que quand nous allons défendre quelque chose, nous allons défendre ça avec la conscience que l'homme est une triple dimension, une dimension charnelle, sociale, mais aussi spirituelle. Et c'est fondamental pour constituer un bien commun, parce que nous ne pouvons pas vivre un bien qui soit commun si nous nions totalement cette dimension. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Quelle est la spécificité, j'ai commencé à dire, pour que l'acte de l'agir, je dirais, chrétien en politique. Alors, nous avons des atouts, et le monde nous attend. Alors déjà, je trouve ça extraordinaire, c'est que nous avons un bagage qui est le magistère, qui est un bagage qui a une immense puissance parce que c'est un bagage capable, qui a une vocation politique au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire de structuration d'une vie en société, de structuration des relations les uns aux autres, mais qui est un bagage qui n'est pas prosélyte. Le catholique qui s'engage en politique, il n'est pas là pour dire vous devez vous convertir. Le catholique qui s'engage en politique, il est là pour construire avec ses mains le royaume de Dieu sur terre et permettre aux hommes de rencontrer Dieu. C'est-à-dire, c'est ce que Pie XI développe dans son encyclique quand il instaure la fête du Christ au roi, c'est ce qu'on dit pas, on dit pas du règne social de Christ. C'est une dimension sociale qui est justement ce royaume de Dieu sur terre. Et pour ça, on s'appuie, nous, parce que nous avons un magistère qui est extraordinaire, sur la certitude qu'au fond de nous, il existe quelque chose que nous partageons tous les hommes partagent, qui est une sorte de norme qui est enracinée au cœur de la nature humaine. Et cette norme, c'est la loi naturelle. Et ça, la loi naturelle, même si aujourd'hui elle est vraiment, vraiment belle, bien mise sous le poisson, elle reste au cœur de nous. Moi, je fais une expérience, j'ai des ados, donc les ados, la loi naturelle, c'est pas toujours encore un truc, mais j'ai une petite. La loi naturelle, elle est au cœur aussi. Elle a une spontanéité pour me dire si elle marque ou pas. Je ne dis pas qu'elle ne se trompe pas, parce qu'elle marque par péché, elle aussi. Mais voilà, c'est un petit peu de chose, elle a des baskets qui me plaisent bien. Et elles sont, voilà, les baskets, parce qu'elles sont peu mariées, mais elles sont plus bien, c'est bien qu'elles ne m'aient plus. Et la loi naturelle, c'est compliqué, vous allez la comprendre, je vais vous prendre parce qu'elle est faite. Je les veux, je les trouve. Vous trouvez ça, je trouve même, c'est pas si ça. Et bien là, ça y est, vous avez la loi naturelle qui s'est réveillée, la loi naturelle, l'instinct, la propriété, fait partie de la loi naturelle. C'est un droit, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la règle naturelle de la société. Et donc, vous voyez, par ce genre de petits jeux un peu caricaturaux, vous voyez bien qu'autour de nous, nous pouvons partager ça avec des gens qui n'ont pas de foi. La force de la doctrine sociale de l'Église, c'est qu'elle n'a pas besoin de la révélation pour être comprise. Je n'ai pas besoin de croire que Jésus est le Fils de Dieu, né et mort pour moi, et qu'en plus il y a ressuscité, je n'ai quand même pas peur, je ne m'entends pas. Je n'ai pas besoin d'entendre ça pour pouvoir comprendre la doctrine sociale de l'Église, et je vais raconter avec vous. Oui,
excusez-moi, mais vous vous entendez très très mal.
Alors, vous parlez trop vite. Je parle
trop vite,
je vais faire attention. Je vais vous faire
attention.
Alors, vous me faites signe. Alors je vais essayer de vous donner un autre exemple, c'est bien. Je vais essayer de vous donner un autre exemple de la doctrine sociale de l'Église. J'étais assez perfectionniste, mais je suis intéressée par la question sociale, et donc j'ai beaucoup suivi la question des gilets jaunes. J'étais énormément dans les manifestations. J'ai beaucoup parlé avec les gens. J'ai beaucoup parlé avec les gens qui manifestaient. Et je crois que les plus beaux développements sur la doctrine sociale de l'Église que j'ai j'ai reçus, je les ai reçus de gens qui n'avaient pas la foi et qui étaient dans ces manifestations. Et je vais vous donner un exemple assez touchant parce que aujourd'hui cet homme a complètement dérivé par rapport à ce qui était au début des manifestations, qui est Jérôme Rodriguez. J'ai eu une longue conversation avec Jérôme Rodriguez. Maintenant, il a basculé très en. Il est plutôt du côté des indigénistes, des violences policières. Il faut dire qu'il a perdu un homme, il ne peut pas le parler. Et j'ai eu une longue conversation avec lui sur la question du travail. Et il m'expliquait, il me dit, mais tu comprends? Nous, on ne veut pas vivre des subventions. Le matin, il avait rencontré des agriculteurs, il dit, le problème des agriculteurs, c'est qu'ils vivent des subventions. Eux, comme moi, nous voulons vivre de notre travail. Et ça, c'est dans la doctrine sociale de l'Église. Dans la doctrine sociale de l'Église, il y a tout un développement sur le sens du travail. Parce qu'il continue, parce que moi, je ne veux pas être un assisté. Moi, je veux produire quelque chose pour le pays dans lequel je vis. Je veux contribuer. C'est-à-dire que je ne veux pas mettre, je veux mettre à pouvoir être un travailleur. Et ça, c'est la doctrine sociale de l'Église brute de coffrage. Dans la doctrine sociale de l'Église, vous avez tout un discours, toute une réflexion sur ce que c'est qu'un salaire juste. Et quand il me parle de ça, il me parle du sens du travail, il me parle du salaire juste et il me parle même du principe de subsidiarité. Il n'a pas le terme qu'il appelle, il n'a pas cette formation. Mais en fait, il me dit, j'ai pas besoin que tu m'expliques ce que je dois faire si moi je suis capable de le faire. Je veux exercer ma responsabilité. Et je leur ai dit, tu sais, alors là il y a du God to Express, là il y a rien de Novarum, il en s'en fichait. Mais nous pouvions parler de la langage parce que ce langage, avant qu'il soit tordu, parce que chez Jérôme Rodriguez, il a vraiment été tordu par l'extrême gauche. Je pense que c'est notre grande nationale, pour moi c'est une grande faute. C'est que nous n'avons pas été cherchés, mais nous avons laissé en pâture à ceux qui sont les tenants de la révolution. Donc la colère, elle est partie du côté de la révolution. Mais lui comme moi, nous avions en commun cette loi naturelle qui nous disait quelque chose de juste. Un fondement qui était naturel sur lequel lui aussi avait construit un discours lié à la raison. Et donc la force des catholiques qui s'engagent en politique, c'est que nous avons, nous partageons ça, un fondement intellectuel qui est possible d'offrir aux autres. Et puis surtout, qui apporte les réponses aux maux de tout le monde. Dans une société où il n'y a plus de commun, où nous ne partageons plus rien en commun, on fait une loi contre les séparatistes. Moi, j'ai adoré le changement de terme. Au départ, il y a un an, Emmanuel Macron parlait d'une loi contre les communautaristes. Aujourd'hui, c'est une loi contre les séparatistes. C'est-à-dire qu'on ne cherche même plus à lutter contre les communautaristes. C'est fini, on a abdiqué, mais nous ne cherchons pas à ce que les communautés ne fassent pas sécession. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Ce changement de cadre est fondamental. Elle nous dit quelque chose de très fort sur notre vie. Il n'y a pas que la France, hein. Chaque ça, on pourrait analyser l'attitude de l'Allemagne vis-à-vis de la Turquie aujourd'hui. C'est bien parce qu'elle est fragilisée par une tentative de séparatisme turc au sein même de son propre pays. Et du coup, nous, aujourd'hui, avec le discours de chrétien, que nous défendons la personne humaine et sa dignité, on n'est peut-être pas toujours dit, mais en fait, c'est ce dont le monde a besoin. Quand nous luttons pour la justice, c'est ce dont le monde a besoin. Et quand nous rappelons la dimension et le caractère inaliénable de la conscience, c'est ce dont le monde a besoin. C'est pas ce que le discours, on pourrait dire, ambiant, médiatico-politique, réclame. Mais c'est ce que nos concitoyens réclament. Alors j'ai pris 5 points de difficulté que vit notre société. Et chaque fois, j'ai vu comment la doctrine sociale de l'Église pouvait y répondre. Je reviens sur la cause contre les séparatistes. Maintenant, les intellectuels, les analystes politiques disent qu'il faut qu'on repense notre contrat social. J'aime pas l'expression parce qu'elle vient de nous. Rousseau, et donc elle est porteuse de valeurs intellectuelles, le terme est créé, de quoi je parle. Mais moi je le sais. Aujourd'hui, dans une société qui a besoin de penser son contrat social, nous avons un trésor. Ce trésor, c'est quoi? C'est que nous avons une anthropologie. Nous savons définir ce qu'est l'homme. Donc nous avons une conception de l'homme à offrir. Et une conception de l'homme que nous cultivons depuis plus de 2000 ans. Parce que même nos grands frères dans la foi, les juifs, avaient déjà commencé à l'élaborer. Et donc nous sommes dans un monde qui n'a plus de contrat social, mais c'est plus qu'on vient dans une société qui est qualifiée de liquide, de la post-vérité. Nous avons, nous, un trésor à offrir à notre société, qui est cette culture que nous développons, qui nous a construit, qui n'est pas uniquement spirituelle, mais qui est aussi une culture, il y a un rassemblement. Nous avons une architecture, nous avons du beau à donner. N'importe qui rentre dans une cathédrale gothique, trouve ça beau, qu'il ne partage pas notre culture. Mais nous avons du beau et une histoire à partager. Nous avons des valeurs qui sont en cohérence avec celles de la République. Chesterton a dit qu'elles étaient devenues folles. Et la liberté, l'égalité et la fraternité, c'est quand même le béaba chez nous. Après, il faut voir le sens qu'on y met dedans, mais en tout cas, on a des portes d'entrée. Autre élément, on parle, ça j'en parlais déjà un petit peu, on rentre dans une crise économique qui a duré avec son précédent. Forbes avait publié un article en disant que sans précédent depuis 1600 et quelques. Avec le calcul, je ne sais pas de l'histoire, pas combien de temps, ça me paraissait un peu étonnant. Bon, en gros, dans l'histoire contemporaine, il n'y a pas d'équivalent. Mais nous, nous savons que le pauvre, il a quelque chose à dire. Je ne dis pas qu'il faut les enfermer dans la pauvreté. Mais l'option préférentielle du plus pauvre, elle m'oblige à avoir un certain regard sur le pauvre. Et surtout, elle m'oblige à le voir comme un prophète. Donc quelqu'un que je ne peux pas infantiliser, c'est la revendication que j'ai revendiquée des Gilets jaunes. Je ne peux pas être raciste, je veux pouvoir le faire. Donc cette culture de la pauvreté que nous avons, cette culture autour de la pauvreté, cette option de préférence du plus pauvre, elle est un véritable guide pour penser cette crise économique dans laquelle nous sommes déjà. La crise de l'éducation. Le système éducatif est en faillite, moi j'en suis convaincue. Mais les pères disparaissent de la situation. Je ne parle même pas de la loi de politique, mais la paternité est extrêmement mise à mal aujourd'hui. Et nous, on sait ce que c'est qu'un père. On a tous le même. Et moi, je suis frappée de voir autour de moi les jeunes qui ont une relation très compliquée avec leur père, qui renouent avec leur père parce qu'ils ont d'abord découvert leur père, monsieur. Donc on sait à quoi sert un père. On est dans la relation d'amour. Donc on a quelque chose à dire sur la même discussion, sur la question éducative, sur l'autorité. Autre exemple, la laïcité. Nous avons une relation assez apaisée avec la laïcité. Elle est particulièrement soutenue par les catholiques. Au moment où cette question devient au sommet de l'actualité avec la question du radicalisme musulman, de l'islam radical, nous avons à dire quelque chose de cette laïcité pour qu'elle devienne justement pas coercitive, pas, et qu'elle ne tue pas la dimension spirituelle de l'homme. Parce que ça fait des années que nous vivons avec cette laïcité, que nous la pratiquons. Donc nous avons quelque chose à apporter. Et puis le dernier grand sujet, c'est la question environnementale. Alors c'est fantastique, le date aussi, mais tout le monde est d'accord. Ok, certains n'ont pas eu les bâches sur le tout pays. Mais nous avons là, pareil, une porte d'entrée pour parler de ça avec les autres et proposer quelque chose. Et nous sommes suffisamment impliqués sur l'environnement pour que des gens comme Audrey Poulvard, comme conseillère à la mairie de Paris, qui n'est franchement pas cathocompatible, soient les rencontrés pas pour lui parler d'environnement, avec Juliette Binoche. C'est pas idéal, c'est pas plein, il y a des failles, mais ça m'a agacé, sur le coup, je me dis, attendez, un tel réseau de notre politique, et Poulvard qui est pour, Poulvard qui est pour, ça marche pas. Mais si, en fait, il faut le voir comme une porte d'entrée, une première discussion, un lieu sur lequel nous pouvons nous accorder. Non, j'étais lente toujours. Ah non, on a commencé plus tard. On a commencé beaucoup plus tard. Non, plus. Et puis, je pense que il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que nous aurons, si nous rentrons en politique, c'est vraiment une invitation que je vous fais, si nous rentrons en politique, nous aurons une éthique de la politique qui va répondre à tous les mots de politique aujourd'hui. Parce que dans notre vie personnelle de croyants, de chrétiens, nous avons une exigence. Je ne dis pas que nous ne tombons pas, mais je dis que nous avons une exigence et je vais citer juste quelques exemples. D'abord, nous savons ce que c'est que le service et le sacrifice. Notre Dieu est mort sur la croix pour nous. Et donc, nous avons, par les actes de charité que nous pratiquons, le sens du service. Et donc, nous pouvons naturellement rentrer en politique et y favoriser l'attitude du service au détriment de l'attitude du pouvoir. C'est pas facile, hein, quand on écrit dedans, ça peut devenir. Mais voilà, si on est bien entouré, si on est bien accompagné, on a déjà ça en germe que d'autres n'ont pas. Ensuite, il y a cette idée de l'unité, que je vais développer en enfin, qui se découle à mon avis en même temps. La question de l'unité, c'est que aujourd'hui, nous critiquons nos hommes politiques parce qu'ils disent des choses et de l'autre côté, ils font autre chose. Il y a une véritable distorsion, je le dis, entre la parole et l'action politique. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que la parole politique devient même action politique. La parole politique est devenue presque performative. Le politique est quelque chose et maintenant ça y est. Du coup, il peut dire n'importe quoi. C'est plus l'action et la réalisation concrète de quelque chose qui l'amène à avoir une parole fondée sur une réalité. La parole crée la réalité. Je suis très attentive à ça. Quand on écoute Emmanuel Macron, c'est le 3, il y a une parole qui crée la réalité. Le 11 mai, nous allons déconfiner, rien n'est prêt. Mais nous déconfinons. Et concrètement, on va devoir le faire. Non, c'est pas comme ça en fait. C'est pas ça la réalité. L'incarnation n'est pas censée. Dans le monde dans lequel je suis, avec les conditions dans lesquelles je suis, quelles décisions dois-je prendre. Mais avec la prise en compte du réel. Et là, Macron, à ce moment-là, il prend en compte une partie du réel. Il prend en compte la souffrance sociale. Et les autres, il faut qu'ils courent derrière pour assumer ces milliards. C'est assez rigolo d'entendre les ministres en main dire on est des bonbons. Donc c'est la question de l'unité entre la parole et l'action. Et puis nous avons aussi l'éthique, alors moi c'est vraiment là-dessus, je comprendrais pendant des heures, sur l'éthique de l'action. C'est-à-dire que je ne peux pas, en tant que catholique, utiliser n'importe quel outil dans ma vie. Je vous explique. Je dois avoir une cohérence complète, c'est encore un élément sur l'unité, entre la pratique que j'ai de la politique et les buts que je recherche. Je donne un exemple. Un de ceux qui a pas mal travaillé, il y a un auteur qui a beaucoup travaillé sur l'éthique de l'action, c'est Jean Doucet, et Jean Doucet disait on ne peut pas reconstruire avec les outils que l'on utilise pour détruire. Je pense que c'est assez intéressant. C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser le mensonge alors que moi, en tant que croyante, je crois à la vérité. Je ne peux pas utiliser la médisance. C'est une véritable pratique politique, c'est même un jeu à la veille de la fermeture. Le vendredi soir, 23h59, la veille, enfin vraiment à la fermeture de la campagne électorale, sur les réseaux sociaux, commencent à fleurir des rumeurs sur le campus, sur les campus. Comme on n'est plus en période de campagne électorale, le candidat ne va rien. Il y en a un qui a fait, je vous donne un nom, qui a fait les frais de sang. C'était à la fin de la primaire de la droite. Ça a duré une semaine. C'était une semaine trop tard. En plus, vous savez, on était vraiment, ça se jouait entre Juppé et Philippe. Enfin, plus vous, on était. Et sort sur les réseaux sociaux quelques images de Juppé qui liaient avec des musulmans plutôt à l'allure pas très sympathique, plutôt radicale, et accompagné de tout un discours selon lequel Alain Juppé avait financé une liste à Bordeaux du tarif absolument dénoncé. En fait, c'est une vieille histoire qui a plus de 10 ans. Mais les militants en Fillon qui ont sorti ça, en Fillon, ils disent non, il est beau. Ils ont cherché à discréditer Alain Juppé avec quelque chose qui n'était pas vraiment du mensonge. Les équipes Juppé n'ont pas vu le coup. Donc elles ont réagi beaucoup trop tard. Ça a continué en grande partie, pas totalement, ça n'explique pas la défaite de Juppé au primaire. Mais ça l'explique en partie. Et bien moi, en tant que catholique, je ne peux pas utiliser cette arme. Parce que si j'utilise cette arme-là, il y a deux choses qui vont être en danger. La première, c'est que mon action dit quelque chose du but que je poursuis. Donc si mon action est mauvaise, utilise les mauvais outils, ça veut dire que je donne à montrer un but qui est lui aussi mauvais. Et puis, l'action, dans la manière dont je vais mener, elle m'éduque quand même. À pratiquer le mensonge régulièrement, je ne vais plus faire la différence entre le mensonge et la vérité. Quand je vais pratiquer l'action de violence, je vais créer l'accoutumance avec cette violence et je vais m'y habituer. Et si j'utilise la violence, qu'elle soit verbale, physique, moi qui n'ai pas mal pris dans le militant, dans le militantisme, et l'euphorie de l'action, pas violente, mais bien assez active, l'adrénaline, c'est assez sympa. Et bien, le problème, c'est que si j'insulte un policier, qu'est-ce que je dis à mes opposants de mon rapport à l'ordre? Même si le policier est en top. En fait, derrière, il n'y a plus. Et dans l'insulte, ça veut dire que je n'ai plus de respect pour la fonction qui est en face. Je n'ai plus de respect pour la personne. Je n'utilise pas la parole pour dénoncer une pratique que je connais. Et un dernier élément, surtout sur cette outil, c'est que, comme dans l'Église, le magistère de l'Église favorise le principe de subsidiarité, je m'appelle rapidement, le principe de subsidiarité, c'est quand l'échelon supérieur ne peut pas faire ce que l'échelon inférieur est capable de faire. C'est l'inverse de la décentralisation. Dans la décentralisation, le pouvoir est en haut et on concède les petits morceaux à l'échelon du dessous. Là, c'est l'inverse, c'est l'échelon du dessous qui a tous les pouvoirs, toute la capacité d'action, et quand il n'est pas en capacité de faire quelque chose, il le délègue à l'échelon du dessous. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que le principe de subsidiarité, il se fonde sur une conception de l'homme qui part du principe que l'homme est libre, il est libre et responsable. Et donc, dans ma pratique politique, je ne vais pas faire à la place des autres, mais je vais créer l'espace dans lequel les autres, mes concitoyens, vont pouvoir devenir responsables et acteurs du bien commun. Et donc là, on inverse complètement la pratique politique grâce au principe de solidarité. Et vous allez voir, en fait, ces gens ont besoin de ça aujourd'hui. Même si, en plus, avec un état de gouvernance qui a enfoui au possible, on attend tout de l'État, bah, redonner aux gens la capacité d'agir. Sont perdus au début. Mais en fait, ils sont meilleurs. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Alors, deux points concrets que je voudrais aborder, et puis je finirai avec une citation du pape comme introduction au journal. Ça ne dure pas trop longtemps, je déborde pas. Deux points concrets qui me semblent fondamentaux, c'est que, un, il n'existe plus. La doctrine sociale de l'Église ne peut pas nous inviter à créer un parti chrétien. Je suis, alors là c'est vraiment une posture partagée par beaucoup, sur laquelle je suis très ferme, et que la doctrine sociale de l'Église ne peut pas s'enfermer dans un parti. Parce que la doctrine sociale de l'Église n'est pas un programme politique. Parce que si j'ai un parti politique chrétien, ça veut dire que je considère que tout le magistère de l'Église en vue du bien commun, toute la doctrine sociale de l'Église, c'est un élément parmi d'autres et que je vais me battre pour ça, contre l'autre. Donc c'est un combat de programme contre programme. Et je réduis cette doctrine sociale de l'Église. Je crois profondément que l'engagement des catholiques en politique doit se faire dans toutes les influences, dans toutes les sensibilités politiques. Je vous explique. Je partage mon bureau avec quelqu'un qui a une histoire politique, mais qui a une position politique qui, en apparence, est en contradiction totale. Travaillant dans le milieu de l'édition, lui comme moi, nous éditons des essais. Nous n'avons pas la même perception de la politique. Mais nous sommes d'accord à 98%. La différence, c'est que lui et moi, nous ne mettons pas les choses dans le même ordre. Si je prends les points négociables de la loi 16, nous sommes tous les deux d'accord sur ces points négociables. Et là, cette argumentation, c'est que son histoire personnelle, intellectuelle et même spirituelle n'est pas la même que la mienne. Et donc nous arrivons tous les deux avec des influences différentes, des expériences différentes, un regard différent. Et ce qui nous unit, c'est la vie, c'est la matrice. Et ça me semble fondamental, parce que du coup, nous, catholiques, nous ne pouvons pas enfermer la doctrine sociale de l'Église. Au contraire, nous avons à la mettre partout. Et je dis souvent en rigolant que catholiques de gauche, catholiques de droite, défendent tous les deux la vie. Tous les deux. Sauf que nous n'avons pas les mêmes priorités. Le catholique de gauche, il va défendre la vie du migrant qui traverse la Méditerranée. Il a raison, le catholique de gauche. Il a profondément raison. La Méditerranée est une civile. C'est un véritable problème. La question de l'immigration, le pape François la ramène, c'est un sujet. Et le catholique de droite, lui, il va défendre la vie à naître et la vie en fin de vie. Il va lutter, je caricature, mais ça vous donne un peu une idée un peu de. Il va défendre la vie à naître, il va lutter contre l'avortement et il va lutter contre le terrorisme. Il a raison, le catholique de droite. L'Église est très claire sur la vie de l'avortement. C'est la vie, il a raison. Il a raison, le catholique de droite, parce qu'il y a plein de morts pour l'avortement. Il a raison, l'euthanasie, c'est absolument contraire à la vie humaine. Les deux nous disent. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun va se placer dans une pratique politique, dans une sensibilité différente, où ils vont pouvoir faire leur action. Chacun, de leur côté, se travaille. Mais au fond, ce qui les unit, c'est une même conception de la vie et de la vérité. Et le catholique de gauche, quand vous lui parlez d'avortement, il dit oui. Et le catholique de droite, quand vous lui parlez d'immigrants, il dit oui. Mais c'est pas ça. Donc je pense qu'on a des engagements qui sont liés à nos personnalités, parce que nous sommes chacun individuellement, et que c'est pour ça que ça sort de son travail, dans un parti unique. Et autre élément, c'est que je crois que le parti unique est une erreur. Le parti, la logique du parti est une erreur. Je vous ai cité Simone Veil au début de mon intervention. Elle dit bien que les partis politiques sont au service, je la cite, d'une propagande dont le but est de persuader. Elle va jusqu'au bout du raisonnement. Elle dit que les partis politiques sont des machines à tuer la vérité et la justice, à fabriquer de la passion politique. Le parti politique, il a pour fonction de récupérer les élus et d'avoir des sénateurs qui vont voter pour les candidats. C'est ça le parti politique. Vous n'allez quand même pas réduire la doctrine sociale de l'Église à une machine à tuer la vérité, à fabriquer de la passion politique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce parti politique, aujourd'hui, qui portait le nom de chrétien, il a changé de nom. Il a changé de nom il y a samedi. Et le parti chrétien démocrate, Jean-Pierre Poisson, devient VIA. 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 J'ai pas encore regardé ce que ça veut dire, et je ne peux qu'applaudir le plan. Et alors, si il n'y a pas de possibilité d'agir dans les partis politiques, comment agir en politique? Eh bien, le seul endroit où on a encore l'espace d'une pratique politique non verrouillée par cette déliquescence du politique et par cette structure du péché qui est devenue parti politique, c'est l'échelle locale. Je pense, et je le pratique, pas moi directement, mais les gens que j'accompagne, qu'à l'échelle locale, hier je parlais avec un ami, mais il dit, à l'échelle locale, on a des problèmes de parking. J'ai dit, à l'échelle locale, on a des problèmes d'égo qui débordent. Mais c'est pas changé. Parce que quand l'égo déborde, il a la même odeur que nous avons, parce qu'il est de gauche, de droite, de colo, pas écolo. Et donc, on peut avoir à l'échelle locale, encore aujourd'hui, souvent une grande agglomération, une pratique de la politique qui se fonde sur le réel, non pas sur l'idéologie. Et comme je vous l'ai dit, la doctrine sociale de l'Église n'est pas une idéologie parmi d'autres. C'est parfait, parce que dans la manière dont vous allez pratiquer une gestion de tortue, dans la manière dont vous allez pratiquer la gestion du parking, des égouts qui débordent, vous allez pouvoir infuser la doctrine sociale de l'Église. Vous allez pouvoir mettre les gens face à leurs responsabilités, les aider à exercer leurs responsabilités. Vous allez pouvoir renouer du commun parce que vous partagez à l'échelle locale ce que
que Gustave Thibon appelait une communauté de blessés. Et c'est intéressant, c'est pas une communauté d'appartenance ou de ressentance. C'est bien que comme nous habitons l'un à côté de l'autre, nous partageons le même destin. On le voit dans les villes qui sont les villages qui ont été inondés. On sent que ces gens, ils ont vécu une communauté de destin quand même. Or, face à la catastrophe naturelle, les gens étaient tous différents. Des milieux politiques étaient allés dépendants. Les gens, ils m'ont dit, ils avaient toutes les sensibilités politiques différentes. Et bien, dans l'innovation, ils ont vécu un destin commun. C'est peut-être ça. Et ce qui est intéressant, c'est que si on va jusqu'au bout de cette logique de l'engagement à l'échelle locale, on peut à ce moment-là faire ce qu'Anna Arendt appelait des oasis. Moi, j'appelle ça aussi, je reprends l'expression de Václav Benda, qui est un dissident tchécoslovaque et chrétien, qui était un grand ami de Václav Havel, qui lui n'était pas chrétien, qui dit la, les polices parallèles. C'est-à-dire, je vais vous raconter ce qu'on des polices au sens de cité parallèles. Je vous raconte l'histoire. Au moment de la charte 77, la dissidence tchécoslovaque fonde sa charte sur le constat, et je pense que c'est un constat qui est valable aujourd'hui dans notre société, sur le fait que tout est fondé sur le mensonge. Dans le pouvoir et son pouvoir, il est très bon de développement sur la vérité. C'est énorme. Havel, on n'a pas de pouvoir. On parle de la vérité. Et Havel a un proche qui est la femme de Benda. Benda écrit quelques années après un autre livre qui s'appelle La police à midi. Le système communiste a besoin d'ennemis pour se structurer et se marier. Et si nous nous rentrons dans une dissidence violente, une opposition, en fait, nourrissons le système. Parce que le système a besoin, on va dire, de son épouvantail permanent. Et donc, il faut arrêter. Il faut aller là où l'État a créé les failles, là où l'État soviétique n'est plus en mesure d'agir, où il est défaillant. Et là où il est défaillant, il faut créer des structures dissidentes. Pas en opposition, mais des structures qui sont au service du besoin de nos concitoyens. Et donc il dit, quand le système soviétique va s'effondrer, parce que comme il est fondé sur le mensonge, il ne pourra pas s'effondrer. Il va s'effondrer, et là, la cité parallèle, la police parallèle, émergera. Et tout ce que nous, ces petites oasis, en fait, d'Anna Arendt, que nous aurons créées, enfin, ne cite pas Anna Arendt, que nous aurons créées, ce sera la société de demain. Et je crois que la force d'un engagement politique local, c'est qu'elle peut permettre de créer justement ces petites oasis, ces petites cités parallèles où le bien commun est de se vivre. Alors, avant de, pour conclure, les élections municipales sont dans 5 ans et demi. Il est grand temps de vous mettre en route tout de suite pour la candidature. C'est maintenant que vous commencez une campagne électorale. Avec comme première chose de vous mettre au service. Allez regarder dans votre commune quel est l'espace où il manque quelque chose. Un très petit qui a eu la plus longue mandature en tant que maire, il a commencé, il avait 25 ans, il est devenu président de l'association des personnes âgées. Il n'y avait personne pour le il a commencé sa carrière politique comme ça. Donc où est-ce qu'il manque quelque chose? Mettez-vous au service de vos villes, mettez-vous au service de vos communes, et puis à ce moment-là, avec la foi que vous avez, avec la pratique de la correction fraternelle que nous savons pratiquer, avec le bon accompagnement à la fois spirituel et amical, vous pourrez devenir ces dirigeants que le pape François appelle de ses voeux. Je vais terminer sur cette citation. Il fait le portrait de roi de l'homme politique au service du bien commun, il dit. Il veut des dirigeants politiques qui vivent avec passion leur service aux populations, qui vibrent avec les fibres intimes de leur ethos et de leur culture, solidaires avec leurs souffrances et leurs espérances. Des politiciens qui mettent en avant le bien commun par rapport à leurs intérêts privés, qui ne se laissent pas intimider par les grands pouvoirs financiers et médiatiques, qui soient compétents, j'insiste là-dessus, il faut se former, face aux problèmes complexes, qui soient ouverts pour écouter et apprendre le dialogue démocratique qui conjugue la recherche de la justice avec la miséricorde et la réconciliation. Et ça, Catholique, nous sommes tous capables de le faire. Merci.